La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La vie, c'est un défi à réaliser, un bonheur à mériter, une aventure à tenter, disait Mère Teresa. Et bien aujourd'hui, nous tentons l'aventure en partant sur les traces d'une femme haute en couleur. Madeleine de Blic sort de combat de Mère Teresa. Cette liégeoise est la cheville ouvrière du volontariat, une association qu'elle a fondée à Pondichéry en 1962. Nos chroniqueuses bourlingueuses n'étaient pas nées, leurs parents non plus, peut-être.
Les parents aussi quand même.
Namasté, Franceline Beretti.
Namasté à tous.
Namasté, Maria Malard.
Namasté.
Franceline, vous avez voyagé en Inde.
Il y a très longtemps, j'avais 14 ans et c'était un grand choc comme voyage, mais du coup j'aimerais bien y retourner.
Vous n'avez pas croisé Madeleine de Blic.
Non, parce que j'étais dans le nord du pays, elle allait dans le sud.
Effectivement, l'Inde du Sud, on va se balader sur les traces de Madeleine de Blic. Et avec vous, Maria Malard. Là, nous parlerons taxi, rickshaw et compagnie.
Oui, je vais vous parler d'une compagnie qui s'appelle Viracaps, qui signifie femme courageuse en Inde.
Quant à vous, Anne Pollard, vous nous présenterez une Namuroise passionnée par l'Inde et très active dans une autre ONG.
Oui, elle s'appelle Adèle Stimar et elle est présidente volontaire d'une association qui propose l'éducation aux enfants en Inde.
Du côté de Pondichéry, les Belges du bout du monde à découvrir cet après-midi à 14h10 sur la Une en télé et ce matin en radio sur la Première.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot.
Avant de vous présenter notre Belge du bout du monde, Madeleine de Blic, nous plantons le décor avec vous, Franceline Beretti. L'Inde, c'est la plus imposante démocratie de la planète, 100 fois plus grande que la Belgique, 100 fois plus peuplée aussi.
Oui, un des pays les plus peuplés au monde, le deuxième avec plus d'1,1 milliard d'habitants. Aussi une des civilisations les plus anciennes de la planète. Des 3000 avant Jésus-Christ, la civilisation de la vallée de l'Indus se développe. Ça correspond à l'ouest du pays actuellement et puis au Pakistan. Et c'est là qu'on trouve les premières villes en Asie. Alors au fur et à mesure de l'histoire, il y a différents royaumes qui se construisent, il y a des invasions régulières et puis des grands empires comme l'empire moghol au XVIe siècle qui vont réussir à pacifier tous ces royaumes et à permettre une énorme prospérité économique et aussi scientifique et culturelle. À partir du XVIIIe siècle, eh bien, les grands pays occidentaux entrent en concurrence pour maîtriser le commerce. Elles établissent des comptoirs sur les côtes, exactement comme Pondichéry au sud-est du pays, là où justement vous avez rencontré Madeleine.
Yes, my dear. L'Inde, c'est aussi une colonie britannique au 19e siècle.
Of course, c'est l'Empire britannique qui remporte la mise. Vous connaissez forcément les écrits de Kipling, par exemple, le fameux livre de la jungle qui se passe en Inde. Ça a fasciné beaucoup d'Anglais. Mais dès 1947, eh bien, le pays devient indépendant. On retient souvent un Mahatma Gandhi dans cette lutte pour l'indépendance, une lutte non violente pour se débarrasser des Anglais.
Gandhi qui disait « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ». C'est aussi une des devises de Madeleine de Blic. Écoutez notre Belge du bout du monde, elle se présente au micro de la Première.
Bonjour à vous, bonjour à tous. Je pense qu'il est bien que je me présente. Alors je voudrais vous dire que je suis née à Liège et que j'en suis très fière. De tout mon cœur, je suis liégeoise et de tout mon cœur, je suis indienne.
Alors Madeleine de Blic, vous êtes arrivée ici célibataire, chétive, en mauvaise santé, en 1962, avec l'idée de rester quelques mois.
Oui, j'avais pensé que je resterais un an. Et comme vous le voyez, l'année n'est pas encore finie.
C'est une année qui dure. Et puis la famille s'est agrandie, vous n'êtes pas restée célibataire très longtemps. Avant même de vous marier, vous avez adopté deux enfants.
Oui, c'est bien ça, vous voyez. J'ai d'abord fait, à mon arrivée ici, j'ai aidé les sœurs de Cluny à la maternité, elles n'avaient pas de personnel. Elles ont accepté que j'apprenne. Et j'ai donc été à un moment très, très heureuse de faire des accouchements. Aider à donner la vie, c'est un moment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce temps. Et j'ai vu une maman qui a accouché et qui est partie immédiatement parce que son mari était mort. Elle avait 5 autres enfants. Donc, elle a laissé le bébé. Et donc, j'ai pensé, je vais prendre ce bébé. Mais quand elle sera un peu plus grande, je la rendrai. Je ne l'ai jamais rendue. Elle est toujours avec moi et elle est elle-même mariée et maman.
Et puis, vous avez rencontré l'homme de votre vie et vous avez eu 2 autres enfants.
Oui. J'ai rencontré un Français qui s'appelle Arnaud de Blic. Et lui, Il était le premier coopérant français qui avait refusé de faire son service militaire, qui voulait faire un service civil. Il m'a vu en sari blanc, je suis toujours en sari depuis que je suis là, avec deux petits bébés dans les bras. Il a cru que j'étais mariée à un Indien. On lui a dit non, alors il s'est approché. Et ensemble, c'est vraiment ensemble, nous avons travaillé d'abord pour les lépreux et puis pour tout le reste. Nous avons eu nous-mêmes nos enfants, deux à nous, donc nous avons quatre enfants. C'est pareil, adoptés ou pas adoptés, c'est nos quatre enfants qui ont maintenant des petits-enfants et nous sommes grands-parents.
Et c'est ce qui est sans doute le plus dur dans votre vie ici, où vous sentez heureuse, équilibrée, mais avec quand même le cœur qui tire un petit peu.
Ce qui a été la plus grande souffrance pour moi, c'est d'être perpétuellement loin des miens. D'abord de ma maman et de tous ceux de Liège, bien sûr. Mais après ça, vous voyez, c'était très très dur quand mon mari, avec raison, a décidé que nous devions emmener les enfants en France, puisqu'il voulait, il devait être éduqué là-bas. Et que moi, le président du volontariat, qui était le Pandit Bhatt, m'a demandé rester, je n'ai pas d'aptitude pour le travail social. Et donc, il a fallu quitter les siens. Ça a toujours été le plus difficile de tout mon temps.
Et vous dites ça avec un grand sourire lumineux, avec au-dessus des yeux, dans le prolongement du nez, ce point rouge.
Ça s'appelle un potou. Et ce qui se passe, c'est ceci. Au moment du mariage, dans la tradition, le marié se pique le petit doigt et donne une goutte de son sang sur le front de sa femme en lui disant « Je te défendrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang ».
Et donc Arnaud vous a mis ce petit poteau il y a une cinquantaine d'années, et tous les jours vous l'avez encore ?
Ah oui, et quand je suis en France, je n'ose pas le mettre, quand je suis en Belgique, je n'ose pas le mettre, mais ça me gêne parce que j'ai tellement l'habitude de l'avoir.
Très coquette, hein, avec son sari, vous l'avez vu, Mariam, Franceline, c'est une femme pleine d'élégance.
Oui, très élégante et puis avec une énergie incroyable.
Ouais, et alors, elle passe sa journée, elle a une canne à la main, elle lève sa canne et elle harangue les personnes qui travaillent avec elle, elle les dynamise, elle leur donne vraiment beaucoup de souffle. Allez voir aussi sur la page Facebook de notre émission, on a mis des photos de Madeleine à son arrivée dans les années 60. Elle avait presque le look Brigitte Bardot, hein, donc c'est une très très jolie femme. On va la voir très à l'aise à la fois dans les salons des ambassades où elle a reçu la Légion d'honneur par exemple, ou bien à Toutipacam, cette ferme où Madeleine soigne et élève des animaux. Elle a bien compris que pour venir en aide aux plus démunis, il faut d'abord leur donner les moyens de se nourrir. Elle a dans cette ferme 200 dindons, 3000 poulets, 23 chèvres, 26 vaches, ainsi que des mangues, des goyaves, des aubergines, sans oublier évidemment les rizières, les palmiers et les cocotiers qu'elle a plantés.
C'est toute la rangée que vous voyez là. La terre était tellement mauvaise qu'ils n'ont pas poussé très bien. Maintenant, c'est un peu mieux, mais quand même, ils ne donnent pas le nombre de coupes. Mais j'ai refusé qu'on les coupe et d'en mettre d'autres parce que ce sont les premiers, il faut les préserver.
Et qu'est-ce que vous faites avec les noix de coco ?
Ah, on fait toute la cuisine, on boit l'eau. On boit l'eau, mais l'eau de coco, ce n'est pas le lait de coco. L'eau de coco, c'est une noix de coco fraîche qu'on ouvre et l'eau est le meilleur pour la santé. Par exemple, quand on est dans un village et qu'on n'a pas d'eau, quand on est dans un endroit de grande catastrophe, on peut même prendre l'eau de coco pour l'injecter directement dans la veine. C'est extraordinaire, mais ça marche. Le lait de coco, c'est autre chose. On gratte la noix, qui est donc épaisse, donc c'est une vieille noix, disons. On la gratte, on met de l'eau bouillante, on malaxe, et là on fait le lait qui sert beaucoup dans la cuisine. Mais à ce moment-là, l'eau n'est pas buvable. Ce n'est pas l'eau, c'est le lait que l'on fait. On fait beaucoup de choses avec le noix de coco.
Autre produit très bon pour la santé que vous cultivez ici, que vous élevez, la spiruline.
Ah oui, c'est juste ce que nous avons là, que nous allons maintenant visiter. C'est assez extraordinaire, vous savez, la spiruline. Vraiment, c'est quelque chose qui donne plus que la viande, toutes les protéines dont le corps a besoin. Et c'est toujours accepté pratiquement par tous les organismes. Donc, nos enfants sont en bonne santé. Je crois que vous l'avez remarqué, ils sont pleins de vie. On leur donne de la spiruline depuis très, très longtemps. Mais on a soigné des gens aussi, par exemple, des leucémiques, des gens qui avaient besoin de force. On leur a donné de la spiruline. Et de plus en plus, les médecins en Europe comme en Inde pensent que la spiruline est quelque chose qui était dans le passé, qu'on a perdu, mais qu'on doit reprendre.
C'est une algue en quelque sorte ?
C'est une algue. C'est une algue. Qui s'élève. Que l'on récolte tous les jours, que l'on fait sécher et que l'on fait soit en poudre, et cette poudre on la met ou dans des capsules où on fait des comprimés.
Ah ben voilà votre taxi.
Voilà.
Ah oui, elle circule toujours en rickshaw, un petit taxi motorisé. Elle s'assied à l'arrière et avec sa canne, elle dit d'avancer. On parlait avec Madeleine de Blic de la spiruline. Vous en avez goûté, Maria Mallard ?
Oui, mais c'est pas très, très bon, on va dire.
Moi, j'ai testé en croquette et je l'ai mis ça à l'apéro avec des amis et ça passe très, très bien. Ah. Allez, retour chez Madeleine de Blic avec tous ses projets. La spiruline aujourd'hui, le fromage de chèvre demain. Elle y croit, elle fonce, elle défie la crise, se déploie tous azimuts pour fournir emploi et dignité aux plus démunis. Alors, je vous propose de la retrouver à l'atelier Shanti, spécialisé en tissage, couture et broderie. Sur le mur de son bureau trône ses icônes, Mère Teresa en tête.
Oui, bien sûr, Mère Teresa est venue souvent ici. Je l'ai vue souvent aussi. Nous nous connaissions bien.
Et c'est Monsieur Gandhi là au-dessus ?
Mais bien sûr, ça c'est un maître, n'est-ce pas ? Je crois que dans le temps où il vivait, de décider de ne pas avoir d'armes dans un immense pays comme l'Inde, c'était vraiment un très grand monsieur que je respecte encore aujourd'hui beaucoup.
Vous avez beaucoup côtoyé sa fille aussi, Indira ?
Ah oui, Madame Indira Gandhi, on se connaissait bien. Et quand elle a été Premier ministre, elle a dit, je ne peux pas vous parler maintenant, mais c'est très bien, vous venez dans ma chambre. Donc on a passé le temps avec Madame Indira Gandhi dans sa propre chambre. Quelle tristesse de l'avoir été assassinée comme elle l'a été. Ça a été très, très, très grave. Mais je veux peut-être, puisque vous me donnez la parole, vous dire que la même journée, j'ai rencontré une sage de l'Inde. Avant ça, il y avait Ma Ananda Mayi. Et cette dame était venue bénir Madame Indira Gandhi. Elle a passé son regard sur chacun. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu l'impression d'être absolument traversée. Elle me connaissait simplement par son regard. J'étais évidemment déjà projetée ici à Pondichéry. Autrement, je pense que j'aurais été près d'elle. Parce que c'était un regard tout à fait extraordinaire.
Regard ici sur votre atelier Shanti. On voit ce personnel assis par terre, travaillant de façon très artisanale. C'est pour l'exportation ?
Oui. Et tous les Belges vont m'en acheter un peu plus, j'espère. Hein. Donc, nous faisons ici le tissage. Et puis nous faisons la couture, et puis nous faisons la broderie. Et nous essayons bien sûr d'exporter tout ça.
Entre autres à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, vous avez des relais ?
À Liège, à Bruxelles, à Louvain.
Alors c'est made in India, made in dignity. Et tout ça vous aide à financer vos activités ?
C'est-à-dire que nous avons mis une règle dès le début, voyez-vous. La dignité d'un homme, ce n'est pas de recevoir. Celui qui reçoit... Il y en a un qui est au-dessus qui donne. Il faut lui permettre, lui, de gagner sa vie, de gagner son riz. On ne dit pas son pain ici, mais on dit son riz. D'être payé normalement et de faire comme ça tout ce qu'il faut pour sa propre famille. Ça, c'est la dignité d'un homme. C'est donc le but que nous poursuivons ici, leur donner de la dignité.
Donc, vous ne faites pas la charité, vous créez de l'emploi.
Non. Notre but premier, c'est de former par l'éducation et de faire du développement par le travail. La création d'emplois me semble un objectif extrêmement important.
Je crois qu'elle a compris beaucoup de choses avant tout le monde. Hein. Madeleine de Blic qui donne de la dignité plutôt que de la charité. Voilà, fille spirituelle de l'abbé Pierre, sœur d'Indira Gandhi ou d'Arundhati Roy, la militante écologiste auteure du livre Le Dieu des petits riens. Le groupe Trio a d'ailleurs consacré une chanson à cette héroïne indienne, Mrs. Roy. On l'écoute sur la première.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
C'était Trio sur la première, Trio qui sera en concert le lundi 31 janvier 2022, bien sûr, au Cirque Royal de Bruxelles. En attendant, avec mon trio de chroniqueuses, Maria Mallard, qui présentera bientôt le JT de l'RTBF, Cocorico, Francine Beretti et Anne Pollard, nous sommes en Inde ce dimanche, l'Inde, le pays de Mrs. Roy et de Madeleine de Blic, notre Belge du bout du monde.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot.
Madeleine Deblic sur la première ce matin, jusqu'à 10h en télé. Tout à l'heure, vous verrez tout le travail de Madeleine. Et il y a encore beaucoup de choses à faire en Inde. Pourtant, Francine Beretti, c'est une grande économie.
La septième du monde en termes de produit intérieur brut, mais toujours de grands problèmes de pauvreté. Et puis encore beaucoup d'Indiens occupés par l'agriculture, environ un actif sur deux et dans le secteur. Alors, au début du XXe siècle, il y avait encore de terribles famines dans le pays avec des milliers de morts à chaque fois. Et la dernière n'est d'ailleurs pas si vieille, elle remonte à 1966. Et depuis, la situation s'est améliorée avec notamment ce qu'on appelle la révolution verte. C'est une politique d'amélioration de l'irrigation, de sélection des variétés de riz les plus productives, des apports d'engrais aussi. L'agriculture indienne a donc augmenté ses rendements. Depuis, les famines sont une histoire passée, même si cette révolution verte est aussi controversée, notamment pour ses conséquences environnementales.
L'Inde est à la pointe aussi de certains secteurs.
Dans l'informatique, elle s'en sort très bien. Vous avez peut-être entendu parler de Bangalore, un nid d'entreprises spécialisées dans les logiciels, dans Internet, un nid d'ingénieurs aussi. Beaucoup d'Indiens qui ont été formés aux États-Unis, au Royaume-Uni, reviennent en Inde parce qu'ils trouvent du travail à Bangalore. L'Inde est aussi le premier producteur de médicaments génériques au monde. Elle a un secteur aérospatial qui se défend. Elle envoie régulièrement des satellites au-dessus de nous. Et puis l'industrie du cinéma, bien sûr, avec les films, les comédies romantiques de Bollywood, un peu kitsch pour nous, mais qui s'exportent bien dans toute l'Asie. Bref, le pays est lancé depuis un bon moment sur la voie du développement. D'ailleurs, il y a une petite classe moyenne d'une centaine de millions d'habitants.
Et dans cette classe moyenne figurent aujourd'hui certains des enfants recueillis par Madeleine Deblic dans les années 60 ou 70. Certains sont devenus professeurs, artisans, d'autres font partie de l'équipe dirigée par Sendil, le patron de l'association volontariat là-bas à Pondichéry.
Nous sommes autour de 200 personnels ici en volontariat.
200 personnes qui travaillent, 1300 enfants parrainés, ce sont des chiffres qui donnent le vertige, c'est un gros travail. Vous êtes ici depuis longtemps, Sendil ?
Depuis 20 ans. J'ai commencé comme assistant social ici et maintenant je suis le directeur.
Que pensez-vous de cette Belge du bout du monde, de Madeleine Deblic, qui est venue dans votre pays fonder cette association ?
Oui, Madeleine Deblic, elle est venue ici pour nous, pour nos gens. Elle a fait un formidable travail. Elle a aidé milliards de personnes qui sont en meilleure vie. Nous avons plusieurs activités ici au volontariat, pas seulement pour les enfants, aussi pour les handicapés, aussi pour les gens vieilles personnes.
Alors comme Madeleine, vous avez le poitou au-dessus du nez, sur le front, mais vous avez un rond rouge et un rond blanc. Pourquoi ?
Oui, ça c'est pour Diwali. On a fait une puja. Ça, puja, c'est la prière. Pour ça, je l'ai mis. Mais souvent, c'est blanc pour l'homme et rouge, c'est pour la femme. Comme on a fait la puja aujourd'hui, je l'ai mis les deux.
C'est vrai que pendant le tournage de cette émission, le 11 novembre, c'était Diwali, la fête des Lumières là-bas en Inde. Et dans cette région de Pondichéry, c'est aussi le nouvel an hindou qui est célébré avec moult pétards et feux d'artifice. Alors parmi les populations précarisées à qui Madeleine Deblic consacre toute son énergie, il y a les lépreux pour qui elle a construit l'atelier Shanti situé en bord de mer.
Ce terrain est convoité par des hôtels très riches qui auraient voulu ici installer des hôtels au bord de la mer. Mais on ne nous mettra pas dehors, même si on nous dit tout le temps « vous allez être jeté dehors », on ne le sera pas. Vous voyez, elle vient de me toucher les pieds pour me remercier. C'est une façon de remercier. On se courbe devant la personne qui vous a donné quelque chose et on lui dit merci en touchant les pieds. Il est bien clair que le gouvernement pense qu'il faudrait qu'il puisse nous enlever parce qu'on n'est pas beau à cause de nos handicaps, et faire autre chose. Alors ils répètent et ils nous font payer mais des choses stupides, de location. On se bat.
Alors il faut rassurer nos auditeurs, ce qu'on entend derrière nous, ce n'est pas des coups de fusil.
Ah non, non, non. Nous sommes aujourd'hui en la fête de Deepavali, ce sont des pétards. Et malheureusement, ça dure 3 jours, j'ai horreur de ça, mais toutes les familles aiment bien de donner à leurs enfants un moyen d'expression pendant cette fête qui est une fête de famille, les pétards de Deepavali. Je vais vous continuer à vous présenter les unes et les autres. Ni père seulement,
papati, papati.
Vanakam papati.
Vanakam.
Partir effacé sur le Gange, la douce. pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur.
Balavoine qui nous a quittés il y a 30 ans déjà, et sur son dernier album il y avait cet hommage à Mère Teresa, la chanson Sauver l'amour. Sauver l'amour pour Madeleine de Blic, ça commence aussi par donner à manger. 1600 repas quotidiens sont servis au volontariat, car un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alors on mange à l'indienne, assis par terre, sans couvert. Vous avez essayé, Francine Beretti?
Oui, c'est une technique à prendre quand même, oui. C'est pas si évident que ça de faire cette petite boulette
non.
de riz.
Je vous avoue que j'ai vraiment eu quelques difficultés, ça n'a pas été évident, mais après quelques jours, on s'habitue et on fait tout ça avec, c'est très très sympa, le chœur des femmes qui chantent. Ces indiennes ont des voix extraordinaires. Écoutez-les. C'est très très prenant.
Merci. Ça va bien?
Ça va bien.
C'est vrai qu'on parle français, hein. La langue de Molière résonne encore dans la ville blanche de Pondichéry, ancien comptoir des Indes. Hein. La France est encore très très présente. Les rues, hein, on retrouve des rues Dumas par exemple. Allez, on en reparle après la pub sur la première. Ce sera le retour des Belges du bout du monde à Pondichéry.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Namasté, bon dimanche à vous sur la première. Nous vous proposons ce matin une nouvelle diffusion de notre reportage réalisé en Inde chez Madeleine de Blic, une femme fabuleuse, active à Pondichéry depuis 59 ans. Vous la verrez tout à l'heure en télé à 14h10 sur la Une, et vous pouvez déjà lire son parcours dans l'article mis en ligne par Edith Vallée sur nos réseaux sociaux et sur notre site lapremière.be. Reportage et retrouvailles aussi ce matin avec nos chroniqueuses Anne Pollard, Franceline Beretti et Maria Mallard, après une bouffée de George Harrison, fasciné par le sous-continent indien. Écoutez ça.
Les Belges du bout du monde.
Connaissez-vous, Franceline Beretti, le point commun entre Madeleine de Blic et Maria Mallard?
Non, j'ignore totalement.
Elles ont été toutes les deux décorées par le roi.
Oui,
ça, nous, on n'a pas été. Franchement, et quasiment en même temps, Madeleine a été faite commandant de l'ordre de la couronne. Quant à Maria Mallard, elle a été en 2014 lauréate de la Belle Gaudissée. Elle a obtenu le premier prix et les félicitations du roi Philippe. Lauréate qui revient tous les dimanches, elle n'a pas le gros coup, elle vient quand même chez nous, ça fait plaisir. Sur la première, nous raconter une initiative positive, porteuse de changement. À Bombay, par exemple, Mariam, il y a une compagnie de taxi assez particulière.
Oui, donc comme je vous le disais, une compagnie appelée Vira Caps, Vira qui signifie femme courageuse en indien. Ce nom n'a pas été choisi au hasard puisque cette compagnie est 100% féminine. Vous l'aurez compris, les chauffeurs sont des femmes. Preeti Sharma Menon est à l'origine de cette initiative. Son but est de permettre aux femmes d'être autonomes et indépendantes financièrement. La compagnie a été créée en 2011. Elle offre un emploi stable à des femmes défavorisées.
J'imagine que ce n'est pas un métier qui s'apprend du jour au lendemain quand même, conduire des taxis à Bombay surtout.
Oui, pour la plupart des chauffeurs, il fallait d'abord avoir le permis pour la première promotion. Ils devaient suivre 6 mois de formation. À la fin, 80 femmes ont obtenu leur permis et elles sont encore nombreuses à travailler pour la compagnie aujourd'hui. Le programme de formation a été réduit maintenant à 12 semaines, soit plus ou moins 3 mois.
J'imagine que c'est aussi une idée qui séduit les femmes, hein, les utilisatrices des taxis en Inde.
Oui, c'est vrai qu'en Inde, les femmes ne se sentent pas forcément en sécurité, particulièrement après la révélation de plusieurs incidents dans les transports en commun, comme le viol collectif d'une étudiante dans un bus de Delhi en 2012, ou encore plus récemment celui d'une femme dans une voiture Uber. Il faut donc avouer que des taxis conduits par les femmes, c'est un vrai réconfort de ce point de vue-là.
Oui, je suis sûr que ça va plaire à Madeleine de Blic, cette idée-là. Est-ce que la compagnie a déjà du succès, Mariam ?
Eh bien, le bilan après 4 ans est plutôt positif. Viracaps est aujourd'hui 16 taxis éco-responsables et des centaines de clients fidèles. Les conductrices sont plutôt satisfaites. Elles ont un salaire d'environ 200 euros par mois. Des cours de savoir-vivre et d'autodéfense leur sont même proposés. Aujourd'hui, ces femmes peuvent financer les études de leurs enfants. Elles sont les piliers de leur famille.
Excellente initiative que vous soulignez là. Vous avez eu l'occasion de prendre des taxis, peut-être des rickshaws sur place, Franceline ?
Oui, c'est là que je me dis qu'elles sont courageuses, ces femmes, parce que conduire dans des grosses villes indiennes, ça doit être quelque chose.
Ouais,
quand
ouais,
même.
Ouais. Moi, j'ai pris un taxi à vélo. Il y a pas mal de vélo-taxis. Ouais. Et j'étais tellement gêné du gars qui pédalait qu'à un moment donné, on a échangé les rôles. J'ai pris sa place. Et il a, oui, mais c'est un métier. Hein. C'est autre chose que de faire une petite balade sur le Ravel. C'est beaucoup plus lourd. Alors, il y a cette phrase de Gandhi, parce qu'à Pondichéry, au milieu du front de mer, il y a une grande statue de Gandhi avec certaines des phrases qu'il a prononcées. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Pas mal, hein, ouais. Ça. C'est signé le Mahatma Gandhi. Alors, pour Madeleine de Blic, aider, c'est aussi éduquer. Alors, elle va nous faire visiter à Upalam, dans la banlieue sud de Pondichéry, la petite école prématernelle qu'elle a fondée en 1966.
Nous sommes donc ici à la crèche du volontariat. Nous avons plusieurs crèches, mais ici, c'est la plus importante. Je suis très, très fière des professeurs que nous avons ici.
Certains professeurs de cette petite école étaient des enfants placés chez vous, arrivés tout petits à l'âge de 2 ou 3 ans.
Oui, des enfants que vous allez voir. Nous allons maintenant aller à la première crèche et certaines d'entre elles ont été dans les berceaux, les mêmes berceaux.
Que deviennent généralement les enfants que vous avez accueillis ici il y a 20 ou 30 ans, parfois 40 ans maintenant ?
Il y a eu vraiment des échecs, mais il y a eu beaucoup, beaucoup qui peuvent fonctionner dans l'existence d'une vie tout à fait normale, parce que grâce à cette éducation, ils ont pu avoir un métier, et avec ce métier, avoir une vie familiale à peu près normale. C'est ça qui est l'encouragement.
C'est votre plus grande fierté ?
Ah oui, c'est certain qu'ici, il faut vraiment penser qu'on commence avec les petits pour devenir. C'est ça qui est important.
Votre travail sur le terrain vous a valu quelques distinctions. Je crois que notre souverain vous a décoré.
Oui. Je suis effectivement officier de la couronne.
Et même les Français aussi vous ont...
Ah oui, j'ai la Légion d'honneur. Ce sont des prix qu'il faut partager avec tout le monde, hein, parce que ce n'est pas une seule personne qui fait des choses. Comme j'ai commencé, c'est moi qui l'ai reçu, mais je le dédie à tous ceux qui m'ont aidé.
Humilité, hein. Oui, humilité. Là, c'est incroyable, cette dame qui a la Légion d'honneur. Il dit, mais c'est pas moi, c'est les autres. Parfait, il faut la voir, il faut la découvrir. C'est une femme fabuleuse, Madeleine de Blic. Alors, à Pondichéry, où elle travaille, on parle tamoul, on parle anglais, mais on parle aussi français. La ville a d'ailleurs un petit côté sous-préfecture des tropiques. Écoutez dans les écoles ce qu'on chante. Et on ne dit pas ding-dang-dong, hein, c'est ding-dong-dong. Hein.
Et puis c'est santé la matine aussi, j'ai l'impression,
oui,
plutôt.
C'est pas mal du tout. Alors, dans l'école de Madeleine, elle a gardé le premier arbre planté à son arrivée. Alors, on s'est installé, elle et moi, sous cet arbre à Palabre. Et elle revient sur ses aspirations, sur ses motivations.
J'ai planté un arbre. J'ai jamais imaginé, quand j'ai planté ce petit fichu dans la terre, qu'il deviendrait cet arbre-là. Mais surtout, il y a maintenant 9 ans, nous avons eu un cyclone et l'arbre, comme vous voyez, a été complètement coupé. Donc je pensais que quelque chose disait que c'était un arrêt. Et puis non, la vie est belle. Regardez, l'arbre est beau et il a repoussé sur les bases que nous avions posées.
C'est un symbole, une belle métaphore de la vie aussi, parfois des échecs et puis on se remet debout, on recontinue.
Ça, je crois que c'est très important à avoir au cœur, hein. Qu'on peut toujours, toujours, toujours penser que c'est par la persévérance qu'on fait quelque chose. Les qualités humaines peuvent être ce qu'elles sont, mais il n'y a qu'une chose qui est valable, c'est encore et encore chercher, essayer, apprendre. Je crois beaucoup que tous les êtres humains ont cette possibilité d'apprendre. Ça, c'est à mes yeux très important.
Qu'est-ce que vous pensez de la femme, Franceline, Mariam ?
Elle est étonnante, on a dit qu'elle a 4 fois 20 ans, pour pas dire son âge, mais on comprend effectivement qu'elle a l'énergie de 4 personnes de 20 ans.
C'est vraiment ça, c'est une belle...
Oui, et puis ouais. On dirait que le pays nourrit vraiment l'esprit.
Ouais. Ouais. Et surtout que c'est un pays énigmatique, un pays envoûtant qui fait parfois un peu peur. Moi, c'est la première fois que j'allais en Inde et j'ai vraiment été sous le charme. Mais je crois que c'est parce que j'étais guidé par Madeleine de Blic. Ouais. Allez, on va écouter une chanteuse britannique d'origine indienne, Sushila Raman, sur la première. Et puis, nous continuerons à nous promener et nous visiterons avec notre Belge du bout du monde son atelier de menuiserie qui porte le nom de sa ville natale, Liège.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Maya s'est tirée de Salt Rain, l'album de Sushila Raman, sorti en Inde comme en Belgique. Et vous allez nous présenter, Anne Pollard, une autre femme qui jette des ponts entre nos deux pays.
Oui, namuroise, Adèle Stimar, elle est présidente volontaire de l'association FEBS. En quelques mots, c'est une association qui vient en aide aux enfants touchés par la pauvreté, qui leur offre notamment l'enseignement.
Alors, notre mission consiste à faciliter ou à permettre l'accès à la scolarité des enfants qui sont issus de familles qui sont défavorisées, qui vivent dans une grande pauvreté. Ce sont des enfants majoritairement des filles qui souhaitent n'ont plus qu'un parent ou n'ont plus de parents et vivent chez une tante, un oncle, une grand-mère ou parfois en internat. Alors notre action en fait consiste à les aider financièrement via des parrainages individuels ou des dons collectifs. Donc on essaye vraiment de pouvoir intervenir un maximum pour que ces jeunes filles aillent à l'école le plus longtemps possible jusqu'à l'université. Donc on les aide vraiment à aller très loin dans leur scolarité et ça permet à ces jeunes filles, jeunes femmes, de pouvoir espérer choisir leur propre mari, choisir leur propre carrière et avoir suffisamment d'argent que pour couper ce cycle infernal de la pauvreté. Donc nous, notre croyance à laquelle on croit dur comme fer, c'est que vraiment l'éducation est un énorme levier pour réduire les inégalités sociales et qu'en permettant à un enfant d'aller assez loin dans ses études, il va pouvoir par la suite aider les frères, les sœurs, la famille et que ça va permettre à un moment donné à ces familles de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et ça permet justement à ces jeunes filles aussi de ne pas être mariées de manière précoce, de ne pas être mises au travail de manière précoce et de pouvoir étudier au même titre que les garçons. C'est un pays qui me touche énormément et où je me sens un peu chez moi aussi quand j'y vais. C'est un pays qui est plein de paradoxes, c'est vrai, avec des choses assez terribles et des choses très merveilleuses également. Donc c'est assez particulier, on aime ou on n'aime pas. J'ai connu peu de gens qui étaient sans avis, mais pour ma part, j'aime énormément ce pays. Leur couleur aussi, évidemment, leur cuisine, oh oui, leur cuisine, leur patience. Et malgré toutes les difficultés que les familles que nous rencontrons peuvent vivre, de la joie, de l'espoir, de l'entraide, beaucoup d'entraide aussi, beaucoup de respect. C'est un peuple qui a beaucoup à nous apprendre, ça c'est évident.
Et si le travail de l'association FEBS vous intéresse, Adèle vous donne rendez-vous sur le site internet de l'association FEBS, phebs.orphans.be.
Merci beaucoup Anne Pollard pour cet éclairage différent sur l'action des Belges à Pondichéry. On y retourne dans une poignée de secondes sur la première.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Sur place depuis 1962, Madeleine de Blic ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, même si 59 ans plus tard, c'est à distance qu'elle pilote aujourd'hui le volontariat.
Il y a toujours du travail à faire, alors si je peux aider, je le fais. C'est comme ça que j'ai commencé, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Certains de vos enfants sont grands-parents, ça fait chaud au cœur ?
Bien sûr, ça veut dire qu'on n'a pas perdu notre temps, c'est important. Être utile dans l'existence.
Servir à quelque chose, c'est vrai. Elle est fière de ses racines liégeoises aussi. Hein. C'est peut-être ça son tempérament, Madeleine. Elle a donné à la section de menuiserie le nom de sa ville natale. Ici, ceux qui ont de l'or dans les mains réalisent ce que d'autres ne peuvent qu'imaginer, un meuble, un lit, une commode made in India. La formation, pour elle, c'est aussi l'apprentissage d'un métier et une façon pour l'homme de gagner sa dignité. Allez, on visite avec Madeleine et son directeur Sendil l'atelier Liège.
Ça, c'est la section de menuiserie aidée par notre comité de Liège. Jusqu'à aujourd'hui, on a formé, je pense, autour de 300 garçons qui a la formation, qui travaille comme menuisier à l'extérieur.
Alors, ils sont super baraqués, mais vous les avez connus tout petits au berceau?
Ben oui, bien sûr. Ce sont mes enfants.
Alors, des enfants qui travaillent dans la section Liège de l'école. Donc ça vous fait chaud au cœur, j'imagine.
Ben bien sûr. C'est deux fois les miens. Comme vous le voyez, nous avons des vieux meubles qui sont souvent à rafistoler et on apprend aux jeunes à refaire tout ça, voyez-vous. Et tout ça, alors, est vendu vraiment, vraiment bien cher, ce qui rembourse et le travail, et les salaires, et la nourriture de ceux qui les ont faits.
Ah, elle se perdra le jour où il fera très très noir à Madeleine. Elle les vend très cher pour avoir de l'argent, mais c'est bien, elle a raison. Madeleine qui déborde de projets, alors on touche du bois, elle les réalisera. Avec vous, Franceline, nous allons jeter un regard vers demain. En Inde, il y a encore du pain sur la planche.
Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de plus grande démocratie du monde pour évoquer l'Inde. Alors c'est vrai, c'est une démocratie, mais avec ses dysfonctionnements encore, sa corruption, l'inégalité homme-femme, le système des castes qui intrigue beaucoup de démocrates, et puis l'analphabétisme. Beaucoup de défis donc, et puis on en a vu un autre en cette période de grande conférence pour le climat. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a expliqué qu'on ne pouvait pas lui demander à lui autant d'efforts qu'aux pays industrialisés parce que les Indiens avaient le droit eux aussi de sortir de la pauvreté, d'avoir accès à l'énergie, à l'électricité. Alors d'un côté, on comprend tout à fait son point de vue, effectivement. D'un autre, c'est quand même inquiétant parce que le même jour, le jour où il a fait son discours, eh bien, il y avait un pic de pollution absolument inédit à New Delhi. Les gens pouvaient à peine sortir de chez eux avec des conséquences graves pour la santé. Et donc, ces problèmes environnementaux, l'Inde va aussi y faire face et il va falloir aussi que le gouvernement y réponde d'une façon ou d'une autre.
Ouais, et ce n'est pas simple. Hein. L'Inde, pays étrange, fascinant. Madeleine de Blic, qui comptait y passer quelques mois, début des années 60, y a finalement vécu plus d'un demi-siècle. Elle a découvert là un autre monde.
Bien sûr, c'est une autre société avec des autres valeurs. Et il a fallu un petit temps pour comprendre quand même quelles étaient les façons de vivre des Indiens, des Indiennes. Et j'ai trouvé finalement, avec un extérieur qui est parfois troublant, des choses vraiment très très profondes. Je dis toujours à mes Indiens, ah, moi je suis chrétienne, vous êtes hindou, mais si j'étais née en Inde, je serais hindou, et si vous étiez née en Belgique, vous seriez chrétien. Je crois que c'est ça, dans le fond, que je pense.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont révolté ici en Inde? Peut-être au début, les castes qui ont plus été présentes à ce moment-là que maintenant?
C'est certain que le système des castes est à des moments de grande, grande, grande violence. J'ai vu des choses magnifiques dans les différents états, ou les castés ou les non castés, et des choses tout à fait cruelles. Une maman qui a tué sa fille parce qu'elle voulait épouser un non-casté. J'ai vu des choses abominables, hein, c'est bien certain. Il est bien sûr que sans parler de caste en Europe, on a des situations sociales qui sont un peu similaires, même si c'est donc pas grave. Ce que je me demande pourquoi encore aujourd'hui, après tant d'années, même si le système de caste est beaucoup changé, puisque toutes les associations comme la nôtre ont permis à des jeunes d'avoir des postes clés pour diriger des usines, enfin. Alors, ils se sentent beaucoup plus libres dans leur caste. Mais au moment du mariage, ça m'étonne toujours, on reprend dans sa caste. Ça, c'est étrange quand même. Peut-être de moins en moins, mais ça existe encore.
On va se quitter. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, peut-être en tamoul ou en français, avant de conclure cette émission?
Rombo Nandriper, Yannette Rombo Sandoshan Ibaria. Je vous dis un très grand merci à chacun d'être venu et un très grand merci à tous ceux qui en Belgique et en France ont bien voulu croire qu'on pouvait faire quelque chose et qui encore aujourd'hui sont présents par leur aide réelle. Merci à chacun de tout mon cœur.
Ouais, quelle voix, moi, elle me donne la chair de poule, Madeleine de Blic, quand elle parle avec son cœur comme ça. Et c'est vrai qu'elle remercie tout le monde, puisque 1300 jeunes sont parrainés, dont 253 par des familles belges. Chapeau, les amis, même si vous clamez, comme Mère Teresa, que ce que vous accomplissez n'est qu'une goutte d'eau. Si cette goutte n'existait pas, elle manquerait cruellement à l'océan. Ben voilà, on a commencé l'émission avec du Mère Teresa et on termine avec une petite pensée pour cette sœur de combat de Madeleine de Blic. Je remercie nos super chroniqueuses bourlingueuses Maria Mallard, Franceline Beretti.
Merci Adrien.
Vous ne partez pas en Inde tout de suite, je vous sens très motivées toutes les deux.
Oui, moi j'aimerais bien y retourner, donc après ma première expérience il y a fort longtemps, pour redécouvrir ce pays.
Vous aussi, Anne Pollard, vous rêvez d'y aller?
Alors c'est vrai qu'avec tous ces parcours inspirants qu'on a découverts aujourd'hui, ça donne envie.
C'est tout ce que je vous souhaite. Merci à Paul Michel qui réalisait cette émission, déjà disponible sur Ovio et sur les applications de podcast pour la version télé. Il faudra attendre 14h10 sur la Une. D'ici là, passez une excellente journée sur la Première. Après le journal de 10h, Nicolas Blanmont vous servira son pasticcio du dimanche.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la Première, les Belges du bout du monde.
Podcast.